Chapitre 41. Matricule 66. Un oiseau vint se poser sur le rebord de la meurtrière. Un moineau gris et maigre. Ses yeux furtifs, craintifs, détaillèrent l'intérieur de la cellule et repérèrent les quelques miettes près de l'ouverture. Comme chaque matin, il les dévora d'un coup de bec et s'envola. Augénor ne l'avait même pas remarqué. Assis sur son tabouret de bois, il comptait les traits blancs gravés dans la pierre meuble de sa cellule. 88, exactement. C'était donc le grand jour. Celui de l'équinoxe. Celui du tournoi de l'étoile, que Mordelia s'était empressé d'annuler, celui du grand bal. Mais qui aurait pu avoir envie de danser? Celui de son exécution. La guillotine devait être installée depuis 15 jours devant le château de Versailles, à la place occupée il y a encore quelques semaines par le mausolée de Marie-Lune. Rien à dire, Mordelia avait le sens de la mise en scène. Elle ne laissait rien au hasard, pas même l'enfant qu'elle portait. Leur enfant. Mordelia avait tout programmé pour qu'il naisse lors du birthday. Le symbole était parfait. Après la prise du pouvoir lors de la veillée du sanctuaire, l'exécution de son ennemi le jour de l'étoile, son héritier viendrait au monde le jour du birthday. Mordelia avait dû ruminer son plan pendant des années.
« Finalement, pensa Augénor, elle et lui se ressemblaient. Ainsi, tout planifié, tout anticipé, tels deux joueurs d'échecs essayant d'imaginer les prochains coups de l'adversaire. »
Jusqu'à la fin de la partie. Échec et mat, aujourd'hui.
C'est du moins ce dont Mordelia était persuadé.
Sans la moindre hésitation, Augénor se laissa tomber de son tabouret. À la seule force de ses bras, il amortit sa chute et roula sur le dos. Il resta ainsi un instant, tel un scarabée retourné, avant de glisser sur le côté. Ses doigts accrochèrent le pavé froid, et en lente reptation, tout son corps, tendu par l'effort, traînant ses deux jambes comme deux queues mortes, il rampa jusqu'au lit. Il parvint ainsi, dans une ultime poussée, à se hisser jusque sur son matelas. Une seconde plus tard, on frappait à sa porte. Comme chaque matin, Matricule 15 lui apportait son petit déjeuner. Augénor sourit et murmura pour lui-même.
« La partie n'est pas terminée, Mordelia. Il me reste un dernier pion à déplacer. »
Bonjour. Matricule 15 ne répondit pas. Il avait pour consigne de rester muet, afin qu'on ne puisse pas reconnaître sa voix. Même ses yeux, derrière le voile opaque des deux trous dans sa cagoule, étaient impossibles à identifier. Augénor observa le copieux plateau. Viennoiserie, cruche de jus de raisin frais, beurre salé, pain aux céréales, fromage blanc de brebis rougi au baies, un véritable festin qui contrastait avec la tranche de pain rassis et le verre d'eau tiède qu'on lui servait d'ordinaire chaque matin.
« Mon dernier repas, » commenta Augénor. « Quelle charmante attention d'avoir pensé à améliorer le menu. Tu remercieras la reine de ma part ?»
15 semblait impatient de sortir. Il rapprocha le tabouret du lit, posa le plateau dessus et s'apprêtait à déguerpir.
« Attends, » fit Augénor. « Juste un instant. Ne t'inquiète pas, je sais que tu n'as pas le droit de me répondre. Je ne te reproche rien. Tu n'as pas le choix, ce sont les ordres. Si tu désobéissais, n'importe qui pourrait te dénoncer. Mais rien ne t'interdit de m'écouter. Nous sommes d'accord. »
15 hocha timidement la tête. Augénor s'appuyait contre son oreiller et décapita avec désinvolture la corne d'un croissant.
« Tu me connais, n'est-ce pas ? Tu me connais bien. Crois-tu vraiment que je vais me laisser guillotiner dans quelques heures ? Avancer tranquillement vers la mort, le ventre plein ? Je vais te dire ce qui va se passer. Je vais sortir de cette cellule, libre, et je vais délivrer tous les ministres détenus dans les cellules voisines, car eux aussi, Mordelia finira un jour par les guillotiner. Et nous quitterons tous tranquillement ce donjon pour rejoindre Versailles. »
Augénor but la moitié du jus de raisin, s'essuya la bouche. Il paraissait merveilleusement détendu.
« Tu ne me crois pas ? Tu n'as pas confiance en moi ? Alors écoute juste ça. Mordelia est loin de posséder tous les pouvoirs dont elle se vante. Elle se contente d'impressionner les plus crédules avec quelques tours de magie, de se déguiser en sorcière, histoire d'effrayer les enfants. Mais nous ne sommes plus des enfants, n'est-ce pas? Tiens, je vais te donner un exemple. Mordelia a toujours fait croire qu'elle seule connaissait l'identité de tous les gardes. Je peux t'assurer que c'est faux. Le grand cerf avala son croissant. Quinze tremblait, terriblement mal à l'aise. Il fit un pas vers la porte, pressé de s'en aller. « De qui devrais-tu avoir le plus peur ?» l'interpella Augénor. « D'elle ou de moi ? Tu devrais prendre le temps d'y réfléchir. Hélios. » Quinze roula des yeux épouvantés derrière son voile grisé. Augénor savait qui il était. Comment avait-il pu le reconnaître ? Hélios avait la certitude de ne s'être jamais trahi, de n'avoir jamais prononcé un mot, de n'avoir jamais montré, ne serait-ce qu'un morceau d'oreille. « Comprends-tu, Hélios ?» continuait calmement Augénor. « Mordelia ment. Prends le temps de réfléchir. Vous êtes aujourd'hui 67 gardes civils. Mordelia n'est qu'une pauvre fille du tipi. La crois-tu vraiment assez intelligente pour retenir les 67 noms correspondant aux 67 matricules ? Non, bien sûr. Elle les a notés, en secret, sur une feuille bien cachée. Une lettre que je n'aurais jamais dû trouver. » Hélios paraissait confronté à un terrible dilemme. Obéir à Mordelia ou croire Augénor ? Une envie furieuse de parler le tiraillait. Il avait mille questions à poser, mais se retenait. Augénor, toujours aussi calme, beurrait avec soin une tartine de pain aux céréales. Il releva à peine les yeux vers Hélios. « Tu te demandes où elle avait caché cette feuille, n'est-ce pas ? Et comment je l'ai lue sans que Mordelia s'en rende compte ? C'est d'une grande simplicité. Cela va t'amuser. Mordelia conserve cette feuille sous le matelas de son lit. Là où personne ne va jamais. Personne, sauf moi. Tu as dû remarquer que son ventre avait, disons, grossi. Il m'a suffi d'une nuit, pendant que Mordelia dormait, pour apprendre cette liste. J'espère, Hélios, que tu ne doutes pas de mes capacités à retenir une liste de quelques dizaines de noms et de numéros. C'est toute la différence entre Mordelia et moi. Elle bluffe, pas moi. C'est même toute la différence entre ceux du tipi et nous, l'intelligence et l'éducation. À toi de décider maintenant, Hélios. À toi de choisir ton camp. N'aie pas peur. Tu sais, au fond de toi, quel est celui du plus fort. Le regard d'Hélios, derrière le voile gris, passait sans cesse d'Augénor au trait de lumière de la meurtrière, puis de la meurtrière à la porte, vérifiant que personne ne pouvait les entendre. Il finit par pousser un long soupir, et parla.
« Je ne te crois pas. C'est toi qui bluffes, Augénor. Tu as dû remarquer un truc qui t'a permis de me reconnaître, je ne sais pas, un geste que j'ai l'habitude de faire, hocher la tête ou me gratter le nez, ou bien tu as juste eu de la chance et tu montes tout un plan d'évasion à partir de ça. »
Augénor dévora sa tartine de beurre salé, vida le verre de jus de raisin. On aurait presque pu croire qu'il allait se lever et s'en aller. Tu as raison de ne pas me faire confiance, Hélios. On n'est jamais trop prudent. Appelle les deux autres gardes en faction dans le couloir. Hélios n'hésita pas longtemps. Ce tête-à-tête avec le grand cerf le rendait de plus en plus nerveux. Impliquer d'autres gardes était la meilleure façon de se sortir de ce pétrin. Il ouvrit la porte et effectua de grands signes de bras. Matricule 33 et 8, qui patrouillaient dans le couloir, approchèrent de la cellule.
« Entrez !» fit Augénor en saisissant la cruche et en se resservant un plein verre de jus de raisin. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Fromage blanc, croissant, confiture ?»
Les trois gardes se regardèrent, muets et pétrifiés.
« Vous vous méfiez de moi ?» insista le grand cerf. « Alors je vais vous résumer la situation. Elle est d'une déconcertante simplicité. Le destin du Nouveau Monde repose entre vos mains. Soit vous me laissez me faire guillotiner et avec moi disparaîtra votre dernier espoir, soit, ensemble,
nous renversons cette sorcière. »
Cinq autres gardes cagoulés surveillaient les cellules des ministres. Ils saisirent l'orbeau et se figèrent en position de combat dès qu'ils virent Hélios, Noélie et Mook, sans cagoule, surgir dans le couloir, poussant Augénor dans son fauteuil roulant, ni menotté, ni ligoté.
« Du calme, Diana !» fit doucement Augénor. « Noam et Solveig, rangez vos armes. Camélian et Romagna, nous allons prendre le temps de discuter. »
Les gardes furent d'abord sidérés que le grand cerf puisse citer leur nom sans se tromper. Tous et Pierre, leur réaction mutuelle, vérifiant qu'Augénor n'avait pas lancé des prénoms au hasard, qu'ils connaissaient effectivement l'identité de chacun, malgré leur visage dissimulé. Puis, comme Mook et Noélie quelques minutes auparavant, ils parurent d'un coup soulagés. Augénor venait de leur rendre la personnalité qu'on leur avait volée. La pression avec laquelle ils vivaient, sous cette odieuse cagoule, en ne pouvant en faire confiance à personne, en se sentant sans cesse soupçonnés, retombait brusquement. Ils étaient à nouveau eux-mêmes. Ils s'empressèrent d'ouvrir les cellules des quatre ministres et celles d'une demi-douzaine d'autres prisonniers, Django et Idris, les soldats fidèles à Augénor en qui Mordelia n'avait pas confiance, Constel la journaliste et trois promus déchus, dont Rick, un grand ado à la peau pâle et aux cheveux blancs, leader incontesté de la tribu des empesteurs, célèbre pour avoir obtenu son CAPE avec la note maximale. Les ministres, après trois mois de captivité, n'arrivait pas à croire qu'ils étaient libres. Liu clignait des yeux et remontait sans cesse sur son nez ses lunettes rondes brisées. Isalis, comme gênée de se présenter de façon aussi négligée devant des inconnus, réajustait son chignon et époussetait sa robe. Vanille tentait elle aussi de faire bonne figure, raide et digne dans son costume gris, mais Jeanne d'Arc, sans aucune autre cérémonie, se précipita vers elle et la fit valser dans ses bras.
« Ne traînons pas !» ordonna Augénor, indifférent à leurs effusions.
« Pour aller où ?» s'inquiéta Constel.
La petite journaliste avait beaucoup maigri pendant son emprisonnement, mais elle n'avait rien perdu de sa répartie ni de son sens de l'observation.
« On ne pourra pas sortir du château de Vincennes, » continua la journaliste. « Toutes les issues sont surveillées par des prémats, aussi bien celles du donjon que de la cour. Elles sont des dizaines, armées de barres de fer. » Et eux n'obéissent qu'à Crobleu et Mordelia. »
Augénor se contenta de sourire. Il paraissait étonnamment sûr de lui.
« Les gardes civils, fit-il, entrent et sortent librement. »
« Oui, mais... »«
Eh bien, expliqua le grand cerf, il suffit que nous enfilions tous une tunique sable dorée, une cagoule de laine, et ce sera réglé. Il doit bien exister une garde-robe dans le donjon. »
« Au premier étage, » confirma Diana. « Les prémats privilégiés lavent et repassent nos tenues. Ils les stockent dans une pièce à côté de la salle à manger. »«
Parfait. Va nous chercher 11 uniformes. Mordelia nous a rendu un sacré service en imposant l'anonymat à ses gardes civils.
Retenez cela. N'importe quelle arme peut un jour se retourner contre celui qui l'a forgée. » Vanille et Isalis observaient le grand cerf. Admirative. Tout paraissait si simple pour lui. Une situation encore désespérée il y a une heure se résolvait avec une stupéfiante facilité. Jeanne d'Arc avait fabriqué un beau avec une tringle arrachée dans le couloir. Diana revenait déjà avec les tenues. Liu fut le seul à réagir.
« Par toutes les lunes de Jupiter » pensa-t-il. « L'euphorie de la libération errant-elle tous aveugles ? Personne n'a-t-il pensé à ce détail qui va forcément tout faire échouer ? »
Le savant se planta devant le fauteuil roulant d'Augénor.
« Tu as raison ! Nous pourrons tous sortir ainsi en portant des uniformes de garde civile, tous ! Sauf toi ! Il n'existe qu'un seul ado handicapé dans ce donjon. Que tu portes ou non une cagoule, tu seras tout de suite repéré !»
Un lourd silence s'ensuivit dans le couloir du troisième étage. Il venait de comprendre qu'Augénor devrait être sacrifié. Pourtant, parmi tous les ados restés muets, seul le grand cerf ne montra aucun signe de résignation. Il se contenta de réfléchir un moment, comme s'il cherchait dans sa tête un plan, puis affirma
« Je dois essayer de passer. Je n'ai pas le choix. Les matricules 35 et 57 poussaient le matricule 66 dans son fauteuil roulant. Jusqu'à présent, aucun prémat ne les avait interpellés. Cela n'avait rien d'étonnant. Les gardes civils avaient pour consigne de rester muets et les prémats parlaient dans une langue qui leur était incompréhensible. Tous cohabitaient donc depuis le début de l'hiver de fer dans une indifférence réciproque. Django et Idriss, dissimulés sous les tuniques des matricules 35 et 57, étaient parvenus à sortir du donjon sans que personne les interroge à propos de cette étrange troisième garde cagoulée qu'ils promenaient dans un fauteuil roulant. Le pont-levis, comme le plus souvent dans la journée, était baissé et ils purent sans souci franchir les douves. Ils n'étaient pas sauvés pour autant. Avant de se retrouver dans Paris, ils devaient encore traverser la cour extérieure du château et passer le second mur d'enceinte. Ils essayaient de faire rouler le fauteuil le plus vite possible vers la sortie, maudissant le gravier qui crissait sous les pneus. Django et Idriss étaient conscients qu'à n'importe quel moment, ils pouvaient tomber sur un groupe de gardes civils qui, en voyant le fauteuil, comprendraient immédiatement et, dans l'espoir d'obtenir une jolie prime en lunes sonnantes et trébuchantes, donneraient l'alerte. Heureusement, jusqu'à présent, ils n'avaient croisé que ces idiots de prémat. D'ailleurs, c'était eux qui gardaient la sortie nord, une porte voûtée s'ouvrant directement sur les rues de la ville, la seule issue pour franchir le haut mur entourant la cour. Les deux soldats se relayèrent. Presque à chaque mètre, les roues se bloquaient dans les cailloux. Il leur fallait déployer une force de taureau pour faire avancer le fauteuil. Ils parvinrent néanmoins, sans être interpellés, à le pousser jusqu'à la porte nord. Idriss et Django s'arrêtèrent et tentèrent d'expliquer aux prémats de faction, à grand renfort de gestes désordonnés, que leur camarade s'était blessé et qu'il devait sortir pour le soigner. Les 10 prémats, appuyés sur leurs baux de fer, essayèrent de comprendre le mime des deux gardes cagoulés devant eux. Après de longues palabres muettes, ils se concertèrent. Puis, suffisamment convaincus, s'écartèrent pour les laisser passer.
Incroyable ! Jubila Django sous sa cagoule. On a réussi !
Il s'apprêtait à tirer son complice par la manche. Encore 10 mètres et il serait libre.
Merci !
Lâcha Idriss. Oups ! La patrouille de prémats se referma immédiatement sur eux. Un garde civil ne s'exprimait jamais à voix haute. Le matricule 35 tenta de récupérer sa gaffe par de nouveaux gestes embrouillés, mais déjà une impressionnante silhouette approchait. Croc bleu, marchant à grands pas, et rejoignait. Il se planta devant les 3 gardes et observa longuement Idriss, avant de s'attarder sur les tuniques de ses 2 camarades, 57 debout à côté de lui et 66 dans le fauteuil roulant.
« Garde toujours muet ! Pourquoi toi parler ?»
Tant pis, se résigna Idriss. Il n'avait pas le choix. Il devait jouer le tout pour le tout. Il se força à hausser la voix, comme paniqué par l'urgence.
« 66 est tombé dans l'escalier. Sa cheville a tourné. On le porte chez les savants, faut le plâtrer. »
Crobleu, méfiant, toucha le bas de la jambe inerte de 66. Elle ne bougea pas.
« Le soigner ici !»
trancha Crobleu.
« Mordelia, un médicament !»
D'épaisses gouttes de sueur coulaient sous la cagoule d'Idriss. Que faire maintenant? Impossible de foncer tout droit et d'espérer semer les prémats tout en poussant le fauteuil. Soudain, un vent de panique souffla sur la cour du château. Bill venait de surgir du pont-levis, accompagné de 10 ombrageurs, et criait avec autorité.
« Fermez toutes les issues! Ne laissez sortir personne! Les prisonniers se sont évadés !»
L'alerte est donnée. Paniqua Idriss. Il n'avait plus le choix. Il devait abandonner le fauteuil roulant et se sauver. Son regard croisa celui de Django. Ils n'eurent pas le courage de tourner les yeux vers le handicapé et dans un même élan, foncèrent tête baissée avec la détermination de 2 champions de balles d'autruche. Aucun des prémats, surpris, ne parvint à les agripper. En quelques enjambées, Django et Idriss atteignirent la sortie et s'engagèrent sans ralentir dans les rues de Paris. Les prémats hésitèrent à se lancer à leur poursuite, attendant les ordres de Crobleu. Bill, escorté des ombrageurs, arrivait déjà lui aussi à la porte nord, mais ne semblait s'intéresser qu'au garde cagoulé, assis dans son fauteuil au milieu de la cour.
« On se fiche de ces deux fuyards !»
affirma Bill.
« On les retrouvera plus tard. La seule chose qui compte est que leur cerveau n'ait pas pu s'échapper. »
Il se planta devant le fauteuil.
« Alors, Rogénor, tu veux nous quitter ? On a peur de la guillotine et on essaie de courir très vite comme un canard qui veut pas perdre la tête ?»
Il se pencha vers le handicapé.
« T'aurais dû choisir des complices moins froussards !»
Et d'un geste soudain, il arracha la cagoule d'Augénor. Le cri que Bill poussa dut réveiller tous les prémats du donjon, même ceux drogués à la menthe magique dormant encore dans les dortoirs. Le garde 66, assis dans le fauteuil, n'était pas le grand cerf, mais Sam, l'un des 7 privilégiés, assommé et ligoté. Matricule 12 et 27 sprintaient dans l'escalier. L'alerte venait d'être déclenchée. Des prisonniers étaient sortis de leurs cellules. La rumeur évoquait l'évasion du grand cerf et des ministres. 12 et 27 avaient pour ordre de renforcer la sécurité de la porte sud. Des gardes et des primats couraient dans tous les sens. Visiblement, des fugitifs venaient d'être repérés. Porte nord, mais toutes les issues devaient être surveillées. D'ailleurs, 3 nouveaux gardes descendaient du chemin de ronde pour se poster devant la sortie. Ils couraient vite, trop vite, dans le vieil escalier réputé dangereux et glissant. Badaboum. Un 4e garde, cagoulé, dévalait lui aussi l'escalier, mais encore plus rapidement que les 3 autres. Il venait de dégringoler les 10 dernières marches sur les fesses. Il s'échoua à leurs pieds dans un spectaculaire roulé-boulé. Tous les gardes et prémats de faction devant la sortie, en observant l'ado à terre se tordre de douleur, pensèrent la même chose. Après une telle chute, ce pauvre garde allait avoir du mal à se relever. D'ailleurs, il ne se relevait pas. 15 et 8 se précipitèrent pour l'aider autant qu'ils le pouvaient, mais le malheureux avait l'air salement amoché. Il paraissait incapable de tenir sur ses jambes. 33, un garde d'une carrure imposante avec des gestes autoritaires, fit signe aux autres de se pousser. Un chariot attelé était garé devant la sortie. La porte sud était l'issue par laquelle la nourriture et tout ce dont on avait besoin au donjon entrait ou sortait. 15 et 33 installèrent le garde blessé à l'arrière du chariot, alors que 8 prenait les commandes. L'infortuné continuait de gémir et de trembler. Personne n'osa s'interposer, d'autant plus que des cris et des bruits de course affolés provenaient de l'autre côté de la cour, vers le nord. C'était là que tout se jouait. Le chariot s'éloignait déjà, les gardes et prémats de la porte sud le suivirent des yeux, jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la chaussée de l'étang en direction de la forêt. Puis ils reprirent leur poste de sentinelle, oubliant déjà l'incident. Ils avaient bien compris que sous l'ordre nouveau, faire du zèle était inutile. Une seule règle pour être tranquille, prononcer le moins de mots possible et éviter les vagues. Le chariot s'arrêta au milieu de la forêt de Vincennes. Il s'était enfoncé pendant de longues minutes dans les larges allées rectilignes, avant de bifurquer vers des chemins de traverse plus étroits, puis de s'immobiliser dans une clairière protégée par des arbres particulièrement touffus. Personne n'avait pu le suivre. Personne ne pouvait les repérer. Ils retirèrent leurs cagoules, les balancèrent au fond du chariot et respirèrent à plein poumon l'air forestier. Après 12 semaines passées dans une cellule puante, les 4 ministres s'enivraient des senteurs de tilleul, de houx et de fougères.
« Ça va, Augénor ?»
s'inquiéta Jean d'Arc en se tournant vers l'ado handicapé assis à l'arrière du chariot.
« Oui, juste des ecchymoses, rien de grave. »
Le grand cerf se frotta les bras, le cou, les épaules couvertes de traces bleues.
« J'avais toujours rêvé de descendre tout seul un escalier. »
plaisanta-t-il.
« J'espère que Django et Idriss s'en sont sortis. Sans leur diversion aux portes nord, ma cascade n'aurait servi à rien. »
Une étonnante affection liait Augénor, l'ado de loin le plus intelligent du château, et Idriss et Django, ses porteurs attitrés, de loin les plus idiots. Les ministres, après s'être gavés d'oxygène de la forêt, sautèrent du chariot pour se dégourdir les jambes. Le grand cerf resta assis sur le rebord,
jambes pendantes dans le vide.
« Approchez !»
fit Eugénor.
« Approchez !»
Les ministres se tinrent debout devant lui, en arc de cercle.
« Nous n'avons pas de temps à perdre, » expliqua le grand serf. « En ce jour de l'équinoxe, n'ayons pas peur des mots, nous sommes entrés en guerre. Une guerre totale contre l'ordre nouveau. Pour la gagner, nous devrons rassembler autour de nous toutes les femmes et tous les hommes souhaitant se battre pour la liberté. »
Jean d'Arc s'avança d'un pas.
Grand serf, je m'exprime au nom de mes soldats. Je suis persuadé que la très grande majorité d'entre eux nous rejoindront, dès qu'ils sauront qu'un nouvel espoir s'est levé. Ils se rangeront sous la bannière du grand serf et te seront fidèles, comme je le suis moi-même.
Merci, apprécia Eugénor.
Je sais que le monde libre peut compter sur tes soldats. Ils s'entraînent depuis qu'ils sont nés pour cela. Mais Mordelia, elle aussi, dispose d'une armée, de prémats et de mercenaires, ses ombrageurs par exemple, qui lui resteront fidèles tant qu'elle aura des lunes pour les payer.
Ce fut au tour de Vanille de s'avancer d'un pas. Elle prit la main de Jean d'Arc et déclara
« Grand serf, les coffres de la banque du Nouveau Monde volés par Mordelia sous la coupole ne représentent qu'une infime partie de notre fortune. Le reste de notre trésor est resté au grand contrôle de Versailles, bien caché, et moi seul dispose du pouvoir, si besoin, de faire frapper de nouvelles pièces de monnaie. Nous aussi pourrons acheter des mercenaires et assurer aux primitifs un salaire bien plus élevé que celui que Mordelia leur promettra. »
Eugénor hocha la tête, impressionné par le sens de l'organisation de la grande argentière. Vanille soutint pourtant avec détermination le regard du grand serf, tout en serrant plus fort encore la main de Jean d'Arc.
Je voudrais pourtant préciser quelque chose d'important. Malgré ce que Mordelia veut nous faire croire, cette guerre qui s'engage dès à présent n'est pas une nouvelle guerre de ceux du château contre ceux du tipi. Beaucoup de ceux du tipi nous rejoindront, j'en suis certaine. Et même s'ils ne sont pas des soldats entraînés depuis qu'ils sont nés, ils se battront sous tes ordres, Jean, avec courage, sous l'étendard du grand serf, qui est notre totem à tous, enfants du Nouveau Monde. Ce n'est pas une guerre des élus contre les sauvages, des Versaillais contre les barbares, de ceux qui possèdent contre ceux qui n'ont rien. C'est une guerre des forces libres contre cet odieux et criminel ordre nouveau.
« Bien sûr, Vanille, » confirma Eugénor, « bien sûr. »
Isalis n'osa pas les contredire, ce n'était pas vraiment le moment, même si elle n'était pas totalement d'accord avec la tirade de Vanille. En un instant aussi historique, elle avait cependant conscience qu'elle devait également s'exprimer. Elle s'avança à son tour vers le grand serf.
Mordelia a corrompu la plupart des promus, par la peur et de fausses promesses. Mais je suis persuadé que désormais, eux aussi rejoindront notre camp. Ces promus ne sont certes que des barbares, mais ils sont les plus intelligents d'entre eux.
Et les moins nombreux,
glissa perfidement Vanille. Liu eut le réflexe de se placer entre les deux ministres.
Les savants, je vous l'assure, seront également fidèles aux forces libres. Ils mettront leurs connaissances et leur intelligence au service de la liberté et du progrès. Et même...
Liu hésita.
Si c'est l'unique solution pour en finir avec l'ordre nouveau, à concevoir des armes nouvelles.
Liu se mordit les lèvres. Concevoir des armes nouvelles. Jamais il n'aurait pensé être amené à prononcer de tels mots, en opposition frontale au premier commandement de Marie-Lune.
« Ne t'inquiète pas, » le rassura Eugénor. « Nous ne te demanderons pas d'inventer une bombe atomique à lancer sur Vincennes. Quand nous aurons rassemblé assez de forces et de partisans et que nous devrons nous lancer à l'assaut du donjon, c'est de bras et de courage que nous aurons besoin, pas de machines sophistiquées. »
« À moins que Mordelia n'attaque la première, » envisagea Jean d'Arc.
« Non, » assura Eugénor. « Croyez-moi, elle ne sortira pas de son donjon avant 3 mois. Nous aurons jusqu'au birthday pour nous préparer. »
Personne n'osa contredire le grand serf, même si aucun des ministres ne comprenait d'où il tenait cette certitude. Liu s'apprêtait à ajouter quelques précisions sur les technologies modernes susceptibles de faciliter l'assaut d'un château médiéval, mais Eugénor le coupa, avec moins de diplomatie cette fois.
On parlera de cela plus tard.
J'ai une autre mission à te confier, Liu. Une mission urgente.
Le savant remonta ses lunettes rondes sur son nez. À travers le verre brisé, Eugénor semblait fondu par une profonde cicatrice courant d'une épaule à l'autre. Il venait pourtant d'échapper à la guillotine, s'amusa à penser Liu.
Tu dois convaincre tes amis.
Le savant, perdu dans ses réflexions, se demanda s'il avait bien entendu.
Mes hommes...
Ne me joue pas la comédie, tu m'as très bien compris.
Notre ennemi saura unir autour d'elle les forces sombres et corrompues.
Nous devons rassembler toutes les forces libres. Toutes, quelles que soient nos querelles passées.
Tu veux dire que...
Eugénor se redressa et fixa tour à tour ses quatre ministres.
Je veux dire que j'ai besoin de la force d'Akan, qui unira autour de lui les volontaires du Tipi. Que j'ai besoin de la ruse de Zizo, de l'agilité d'Aniel, mais aussi de la popularité de la reine Alix, de l'énergie de Sabi, Lunella et de leurs Lolligirls, de la science de Valère, de l'audace des primitifs errants, de ce Mano et de...
Eugénor faillit bafouiller, mais se reprit aussitôt.
De cette gitante audacieuse, diamante.
Liu dansait d'un pied sur l'autre, conscient de l'enjeu, mais terrifié à l'idée d'échouer.
Je ne sais pas où ils sont cachés.
Salle Z, dans le grand réseau sud. Tu es un savant, tu devrais trouver un plan.
Eugénor se pencha un peu plus vers Liu. Toi seul es capable de les convaincre que nous pouvons combattre ensemble, côte à côte, face à la même ennemie.
Je ne sais pas si j'y parviendrai.
Il le faudra. Sinon, qui d'autre que toi le pourra? Liu baissa la tête, perplexe, alors que le grand cerf redressait la sienne.
En route! Annonça-t-il d'une voix forte. Direction Versailles! La nouvelle de notre évasion a dû se répandre comme une traînée de poudre et nos partisans doivent déjà y converger. Mesdames, messieurs, répandez la nouvelle aux quatre coins du monde nouveau. La guerre de libération vient d'être déclarée.